Donc, je disais, on est le 21 décembre 2011.
Oui.
Pour faire cet enregistrement, je vais vous demander de vous présenter.
Je suis un fils d'agriculteur. J'ai toujours poursuivi les études pendant 2 ans à l'école de Malraux.
Et comment vous vous appelez?
Léo Bernard, né le 23 novembre 1924
Où?
à Arles. Arel, en 2 RE, 2 LES.
Et c'est où exactement? Où est-ce que c'est exactement?
Ben, c'est dans le canton de l'Isère.
Et alors, que faisaient vos parents?
Ben, ils étaient agriculteurs. Alors, j'ai continué dans la lignée. Et mes études ont été interrompues par la guerre. Si bien que j'ai fait 2 ans d'école d'agriculture au lieu de 3 qui étaient prévus.
Et revenons un peu en arrière. Vous avez connu vos grands-parents?
Oui, ma grand-mère.
Elle habitait avec vous?
Ben oui, mais c'était une femme travailleuse qui, les jours de la fête patronale, allumait le four à pain, spécialement pour faire des flans, des galettes. Alors nous, quand on était gamins, on était heureux de pouvoir manger des galettes, parce que cuites au four, c'était un régal. C'est des souvenirs qui restent marqués.
Et quelle exploitation avaient vos parents?
Ben, la surface. Il y avait 45 hectares à Arles et j'exploitais aussi une ferme malassise à 10 km de là qui provenait de la grand-mère. Si bien que la guerre finie, on s'est mécanisé. On avait droit à acheter un tracteur du plan Marshall. Mais alors, pour moi, c'était comme un coup de massue, de changer de matériel. Forcément, avec un tracteur, on faisait bien plus de travail qu'avec des chevaux. Mais on était pris par le désir de travailler vite et fort, si bien qu'on travaillait même jour et nuit avec mon frère pour exploiter ces 2 fermes. Mais moi, j'étais à la charnière entre l'extraction animale et la motorisation, que j'ai vécu mal cette période, parce que les tracteurs étaient inconfortables. C'était une toile à des de la ferraille. Il n'y avait pas de relevage, pas de cabine. Alors, ce matériel-là était plus ou moins encore arrivé au top. Les tracteurs, ils patinaient, ils avaient des pneus. Pas encore d'étudier à fond, comme maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que, alors, il fallait travailler. Il n'y avait pas de relevage. On travaillait avec une charrue semi-portée, qui venait d'Amérique, mais qui n'était pas forcément adaptée à nos terrains. Alors, pour revenir au tracteur, c'était un plaisir de travailler. Mais l'inconfort qu'il y avait sur le tracteur, ben, je l'ai repayé par après parce que j'avais les secousses. J'ai eu mal au dos. Il se souvient qu'il m'a soulevé avec sept vertèbres déplacées. Et j'en souffrais pas, mais c'est suite à un manque de confort. Alors que maintenant, il y a la clim, il y a la relève hydraulique, et, enfin, tout ce que j'ai pas connu.
Et vous êtes allé à l'école où?
Ah ben, j'avais arrêté
Au
l'école,
début.
à l'école communale.
D'où?
Darrel.
C'était comment?
Ben, je travaillais bien. J'ai eu le certificat à 11 ans et demi. Les études me plaisaient beaucoup. Même que je suivais des cours par correspondance. Dans le monde d'hiver où le travail était moins prenant pour s'occuper du bétail. Alors, en plus, il fallait que j'occupe mes loisirs. Je voulais tout savoir. Alors que mes frères, c'était pas ça.
Vous aviez combien de frères et sœurs?
On était sept. D'ailleurs, c'est expliqué dans le.
Mais qu'est-ce que vous vouliez savoir? Vous dites, je voulais tout savoir.
Ben, tout m'intéressait. Un peu toutes les professions.
Mais vous savez ce que vous vouliez faire?
Ben, ça m'intéressait la culture. Je prenais plaisir à la travailler. Mais j'avais un handicap, j'avais mal aux pieds, comme mon père. C'était une hérédité. Et alors, un jour, il me dit, tu peux pas continuer la culture, il faut faire autre chose. Et j'étais partant pour le dessin industriel qui m'aurait intéressé. Mais quand j'ai su qu'il allait acheter un tracteur, automatiquement mon point de vue était changé. Parce que c'était passionnant de conduire un tracteur. Même que pour me perfectionner, que je voulais tout savoir. J'ai suivi des cours de mécanique automobile pour connaître le moteur. Et je me suis acharné, n'ayant pas fait d'apprentissage dans un garage. Et bien, j'ai démonté le moteur et je l'ai remonté. C'est pareil, au début, quand on avait ce tracteur-là, il avait tendance à patiner. Les pneumatiques n'étaient pas étudiées pour. Alors on était obligé d'acheter des chaînes qu'on fixait autour des roues. Mais quand on était sur la route, il fallait les enlever. Alors ce n'était pas très agréable quand c'était en hiver, que ça gelait un peu. Les chaînes étaient pleines de boue glacée, alors avec ça que j'étais déjà gelé, parce que j'ai connu le chaud et le froid avec le tracteur. Quand il fallait travailler sans cabine, parfois j'étais obligé de descendre et de courir 100 mètres pour me réchauffer parce que les genoux, je souffrais des genoux et des mains. Oui, alors ces chaînes-là, il faut les remettre après pour travailler. Alors, dans la boue glacée, ce n'était pas agréable. Tous ces inconvénients-là, ils n'existent plus à l'heure actuelle. Ils ont la clim, leur rouage hydraulique. Et puis les pneumatiques sont mieux étudiées que
Mais vous regrettiez les chevaux?
non. Je m'intéressais toujours à l'agriculture. Je trouvais que c'était un beau métier.
Mais les chevaux, vous préfériez les chevaux ou la mécanique?
Oh ben, je préférais la mécanique. Mais je veux dire, j'étais à une période charnière où j'ai accusé le coup. Attendu que le matériel qu'on achetait n'était pas vraiment au point. Et puis, c'est pareil, 2 années après, on achète une moissonneuse-batteuse. Et encore pareil, on l'a achetée d'occasion et sujette aux pannes. Alors, vraiment que je m'étais intéressé à la mécanique. Ben, c'est pareil. Il n'y avait pas de parasol, il n'y avait pas de cabine. Alors, on avait de la poussière. Enfin, ça va bien, moi j'étais tolérant. Ça ne me piquait pas comme certains. Mais enfin, on avait chaud, on gobait de la poussière. Alors, les sacs, c'était récolté en sac. Alors, il fallait ce qui était battu. Jusqu'à 3 h de l'après-midi, il fallait relever les sacs. Et quand on manœuvre les sacs qui sont mal liés, ils sont pas faciles à prendre. Alors, on avait 150 sacs à relever. Il fallait les porter à dos pour les entasser. On n'avait encore pas les cellules. C'était des machines achetées d'occasion, mais qu'elle avait été dans une Kuma. Alors, elle est plus ou moins entretenue. Les graissages négligés. Alors, tous les roulements, pas les roulements à billes, mais les roulements à cage, qu'il fallait changer. Enfin, ça m'occupait l'hiver. Ça me déplaisait pas. Puis les chevaux, mon père ne voulait pas avoir de jument pour. Parce qu'il y a eu des réquisitions de chevaux en 40. Il y a 4 chevaux à la maison, mais des chevaux ancres. Alors deux réquisitionnés pour l'armée. Alors il fallait renouveler le cheptel. Et puis, alors ceux qui avaient des juments, ils présentaient un billet comme quoi elle était saillie, et ils passaient à l'os. Mais mon père s'en tenait aux chevaux ancres. À chaque fois, par 2 fois, on a eu 2 chevaux de prix. Même que la fin était rebutée, il a acheté des bœufs. Enfin, c'est pas moi qui les a conduits, c'est mon frère. Il fallait avoir une patience. On n'était pas habitué à manœuvrer avec des bœufs.
Vous vous souvenez de la déclaration de la guerre?
Oh oui.
Vous vous souvenez de quoi?
Ben, il y avait beaucoup d'hommes de parti et qu'il fallait quand même assurer les travaux des champs.
Vous aviez des frères de parti?
Oh non, Moi, j'ai passé à côté. J'ai jamais été soldat parce que j'étais dans les classes qui n'ont pas parti. Mais on avait toujours un ouvrier avec nous, mais il a été pris par les dans le maquis. Parce que mon père était maire. Alors, de temps en temps, il y avait les Allemands, ils venaient, on parlait un peu, et puis ils disaient, les SS, c'était les plus terribles, ils disaient, on vous réduira à manger l'herbe des prés. C'était rassurant. Par contre, parfois, il y avait des bons, pas comme comme tout le monde, quand il y en avait des bons et des mauvais. Par contre, il y en avait qui étaient stationnés dans le village voisin. Ils nous apportaient du chocolat, que c'était des choses rares. Mais. Par contre, les SS, alors là.
Vous en avez vu?
Oh ben oui. C'était des fanatiques. Qui étaient heureux de se faire tuer pour Hitler. Oui, alors mon père, bon, ton mère, il recevait les Allemands, et puis c'est la fin de la guerre, c'était le maquis. Alors là, oh, je me rappellerai toujours, j'étais au bois, je façonnais du bois. Là, qui passe 4 hommes et une femme. Et puis, il me parle de moi, il dit, dites rien, sinon c'est 12 balles dans la peau. Alors moi, je dis, bon, je dis rien. Alors, je reprends mon vélo à la tombée de la nuit. Et ces personnes-là, c'était soi-disant du maquis. Mais parce que pareil, il y avait des vrais et des faux. Alors qu'est-ce que je vois en arrivant à la maison? Toute l'équipe que j'avais vue au bois, ils étaient en train de manger l'omelette. Ben, j'ai dit, c'est la meilleure celle-là. Alors, on s'est trouvé. On était en liaison avec un groupe armé. Enfin, armé. Les maquisards, quoi. Alors, il y a une fois, il avait mis le pistolet sur la table, parce qu'on lui dit, si vous êtes pris, nous, on ne peut pas se sauver. Vous vous sauvez, mais nous, ah ben, est obligé de jongler.
Comment?
On était obligé de jouer sur les deux faces.
Mais pourquoi le pistolet sur la table?
Pourquoi?
Le pistolet sur la table.
Oh ben, il l'avait dans les poches, puis il l'avait mis dans l'intention de le reprendre. Mais parce que il avait passé les Allemands. Vous avez intérêt à. Parce que nous, on était mal placés. Alors, mon père, il fallait qu'il soit bien avec les Allemands, puis moi avec les résistants.
Donc il n'a pas eu de soucis après la guerre.
Non, il n'y a pas eu de souci, mais. Ça a frisé. Une fois, il y en a un ils étaient deux. Ils ont demandé à coucher. Ils ont couché dans une chambre. Il ouvrait la fenêtre, que s'il y a quelque chose, on se saute par la fenêtre. À ce cadre-là, on rigole pas. Oui, ils prenaient les tractions avant, comme voiture pour. Et je leur laissais la voiture dans votre branche. Alors, ils s'en mettent la neige. Alors, ils balayaient la neige qu'on ne voit pas les traces des pneus. Puis alors, c'est la résistance. En tant que mère, il était mal, il était près d'une situation agréable.
Et la résistance n'a rien dit par rapport au fait qu'il accueille les Allemands.
Oh ben non, c'est ce qu'on souhaitait pour qu'ils se rencontrent et qu'ils tirent dans le tort. Parce que dans le trafic avant, il a cassé la vitre arrière et les fils mitrailleurs pour tirer au cas de besoin.
Et vous aviez 15-20 ans.
Ben oui.
C'est un âge où on aime sortir, où on aime les loisirs.
Les loisirs pendant la guerre, il n'y en avait pas. On organisait quand même les jeunes, comme moi, des théâtres pour profit des prisonniers. Alors, ça passait, on travaillait tous les jours pour jouer une pièce. Et ça avait du succès. Mais c'était pour faire des colis aux prisonniers.
Vous vous souvenez des pièces?
Des pièces? Oh ben, vaguement. Parce que comme distraction, il y avait bien quelques balles, mais en cachette. Ben oui. On entrait dans une pièce, on fermait les volets pour qu'on ne nous voit pas. Enfin, on n'y pouvait pas un plaisir énorme d'être enfermé comme ça, quoi.
Et c'était souvent?
Deux.
C'était souvent?
Oh ben, tous les hivers, on organisait une soirée théâtrale.
Et les balles?
Ben, les balles, c'était interdit, les balles. C'était des balles en cachette.
Et ça se passait comment?
Oh ben, ils décidaient d'aller dans une pièce un peu isolée, puis on s'amusait comme ça, quoi.
Il y avait des musiciens.
Oh ben, oh, il y avait un violoniste. Une personne qui a une insouciance incroyable. Il avait été pris par les Allemands, enfin, je ne sais pas comment ça s'est trouvé. Alors, il s'était réfugié dans une ferme. Et il avait toujours gardé son violon. Justement, il y en avait qui avaient un accordéon, mais ça se limitait à pas grand-chose. Parce que parfois, les gars de la résistance, ils se mettaient dans le groupe. Pour avoir de la distraction aussi. C'était pas intéressant parce que on sait jamais ce qu'ils avaient dans la tête. Et toujours armé, toujours la menace. Alors c'est pareil là. ça approchait de la libération, un chef du maquis, il nous convoque à la mairie. Alors, qui c'est qui veut nous suivre? Personne n'a levé le bras, il n'y en a que deux qui ont levé. Bon, il dit, ben, allons, on était se camoufler dans une meule de paille, on est dehors du village. Parce que les gars, ils rigolaient pas, hein. Ils disaient, celui-là qui marche pas trop, c'est deux poils dans la peau. Alors ça. Puis on n'était pas enchanté de partir avec eux. Alors, ils avaient distribué les fusils. Il y en avait que deux. Et il y avait deux volontaires, c'est eux qui ont pris les fusils. Alors, ils sont partis avec eux, mais nous, il n'y a pas eu de suite. Je ne sais pas. Enfin, on n'était pas fâchés de ne pas être obligés de partir. Parce qu'il y avait les femmes qui disaient, oh, vous êtes des gonfleurs, vous voulez pas c'est parce que cette femme-là, elle avait trois garçons, et il y avait deux prisonniers. Alors, elle disait, moi, j'ai rien à défendre, parce que vous, faites voir les insultes. Et elle ne nous avait pas répondre.
Et vous étiez informé de ce qui se passait?
Informé.
De ce qui se passait?
Oh ben oui.
Comment?
Parce que, oh ben, il y avait des personnes qui ont été, parce que, dans l'esprit de ces résistants-là, il y avait toujours une pointe de jalousie. S'il était mal avec telle personne, eh bien, ça ne les gênait pas de l'embarquer, une balle dans la peau, et creuser votre tombe. Elle est obligée à creuser, vous avez bien creusé, une balle dans la peau, et terminé.
Vous connaissez des gens à qui c'est arrivé?
Ah ben oui, au village voisin. Celui-là, il est parti, mais il ne reviendra pas.
Qui?
Ben, mais c'est parce que il y avait deux personnes qui étaient dans la résistance, mais qui étaient mal avec la personne qui était arrêtée. Parce que ça ne rigolait pas, ils vous embarquaient en voiture, et ils allaient dans le bois de ciel, on entendait les coups de feu, on va dire.
Le village d'à côté, c'était quel village?
C'était Ville-Maurien. Parce que celui qui s'est manifesté pour les Anglais, ils étaient mal considérés. Parce que il y avait le parti des Allemands, puis la partie des Alliés. Alors, il ne fallait pas, si on n'était pas dans l'esprit de la résistance, ils avaient vite fait Alors ces gars-là de la résistance, on a dit, un jour, ça tournera mal pour eux. On appelait le petit Charles et le grand Charles. Mais c'était des surnoms. Alors, ils étaient. Ben, il y avait un repas de communion, enfin, pas dans mon pays, à 20 km de là. Alors, ces deux Charles, ils étaient venus s'inviter au sport. Bon. Puis voilà que les Allemands, ils arrivent. Alors, Ils savent que c'était leur fin. Ils se cachent sous les tables et ils tirent à la mitraillette. Mais il y en a qui a reçu la décharge des Allemands et a été tué. L'autre, il s'était sauvé. Par contre, il y avait le cuisinier qui a été braqué et qui a été tué. Non, mais on avait intérêt à pas s'affirmer pour un tel ou tel parti. Sinon, on avait les sanctions.
Et le village où de la communion, c'était lequel?
Ah ben c'était là au Châtelier, c'était. Je sais pas de quelle commune ça dépendait. Près de Chili.
Mais donc il n'y avait pas de collaborateurs.
Ah ben si, il y en avait.
Quand même.
Non, c'est pour en revenir. Parce que, il y a une fois, je m'étais planqué à 6 h du matin. Je me rappelle le jour de l'Ascension. On voit des Allemands qui arrivent. Alors moi, je me souris. Notre ferme était en limite. Oh, puis j'ouvre la porte. Je les vois déjà, les Allemands, qui se planquaient, qui se camouflaient. Au cas de s'il y a. Parce que. Il y avait. Pour revenir à l'horizon, il y avait un Polonais qui était pour les Allemands et qui avait dit, qui dénonçait tout ce qui se passait à Arles. Même que. Il y avait Oulé. Chez des voisins, ce Polonais-là. Puis là, les gars de la résistance, ils se pointent. Ils voulaient le descendre. Alors, les habitants, ils ont dit non, vous n'avez pas le tirer ici, ici. Alors, ils l'ont laissé partir un peu dans la rue. Ils ont tiré, mais ils ne l'ont pas touché. C'est pas démonté pour autant, il était voir la commandature dire qu'il y a des résistants dans le village. C'est pour ça qu'ils avaient encerclé le village, que s'il y a des résistants, pensaient les cueillir. Alors moi, il dit, bon, il n'est pas question de sauver, ils sont prêts avant moi. Alors, je rentre à la maison, puis on avait une pile de bois. Me camoufler sur la pile de bois. Puis il y avait ma sœur qui était là. Alors, là qu'ils arrivent, parce qu'ils fouillaient toutes les maisons, ils arrivent à. Ils disent comme. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils allaient tomber sur un jambon fumé. Alors, il se régalait avec du jambon fumé. Mais moi, ce coup, je ne bougeais pas, le au pied de la pile du bois. Alors, ma sœur a essayé de les éloigner. Parce que cette pile de là, il y avait une cave dessous. Je ne savais pas si vous voulez me cacher dans la cave ou. Alors, j'étais là, planqué sur la pile de bois. Parce que la mitrailleuse, elle était dans la cour de notre habitation. Alors, ma sœur cherche à les faire éloigner. Et puis ça s'est bien passé. Parce qu'il m'aurait trouvé. Il a dit, c'est un gars de la résistance, on l'emmène.
Pourquoi?
Ah ben, parce que. La résistance leur faisait du tort.
Et pourquoi est-ce qu'ils auraient dit que vous étiez de la résistance?
Ah ben, j'ai un jeune. Il pouvait supposer, mais attendant qu'il cherchait des codes de la résistance, j'étais bon. Et mon père, il était à la mairie, avec les Allemands. Il dit ben, que j'étais parti. Pas plus. Mais il m'avait découvert. Je sais pas ce que j'aurais dû dire. J'avais même falsifié ma carte d'identité. L'a changé d'une année. Et je l'avais donné au gars de la résistance pour qu'il me donne face à des faux papiers. Mais les faux papiers, je ne les ai jamais eus. Alors, ils sont tombés sur mon frère qui était plus jeune que moi. Où ils étaient un homme divisé par deux. Et là, cette fois-là, j'étais pas rassuré. Puis après, ben, il est venu la libération. Alors, moi et mon frère, on était partis en vélo à Chaos, parce qu'on savait que les Américains étaient à Chaos. Alors, on reste à Chaos, il y avait les automitrailleuses, enfin, braqués susceptibles de venir des Allemands. On était surpris par tout ce matériel-là. Et puis, on dit qu'on faut qu'on rentre à la maison, il faisait nuit. On arrive à Villers-sur-Pralin, qui est sur une hauteur. On dit, ça sent l'essence. Et puis un bruit de moteur. Mais c'était les Allemands qui se sauvaient. Alors, nous, on a pris peur, hein, il ne fallait pas qu'ils nous tombent dessus. Alors, on a planqué les vélos, puis on est rentré à pied à la maison. Alors, c'était la joie, là, de voir les Américains. On leur demandait des cigarettes. On leur portait de l'agneau, là. Ils étaient contents avec ça, ils nous filaient des cigarettes. Oui, ça a été la joie quand on s'est senti libéré. Il n'y a plus de ces restrictions parce qu'il y avait le couvre-feu. À 8 h du soir, il ne fallait plus voir de lumière. Il fallait tirer les rideaux. Et puis, encore la radio. Les Allemands, quand ils sont arrivés, ils regardaient voir s'ils passaient. A été braqué sur Londres. C'était automatique. Hein. On n'a pas intérêt à laisser le bouton sur Londres. Parce que tout de suite, ils appellent les collaborateurs.
Parce que vous écoutiez la radio?
Ben oui, on avait tendance à écouter la radio anglaise. Parce qu'il y en avait un Français qui imitait tous les soirs, qui lisait les messages pour la résistance, parce qu'il y avait un code. Alors je me rappelle toujours, le Français parle au Français. Alors ça, oui. Les Allemands, ils n'aimaient pas qu'on écoute la radio anglaise.
Et quand ils venaient, ils étaient corrects?
Ben certains étaient corrects.
Comment ça?
Mais quand on dit on vous réduira à manger l'herbe et les prés, ça veut tout dire.
Et ils disaient ça en français?
Ou ben, ils savaient quelques mots de français, quoi. Parce qu'en 1940, quand les Allemands arrivaient, enfin, nous, on avait évacué avec la charrette, les chevaux. Et on avait encore une tante et une grand-mère à monter sur la voiture. Alors moi, j'avais pris le vélo, ma sœur aussi. Mais on n'avait pas fait. On n'avait pas fait. On avait fait quoi? 7-8 km. Tout pour un coup, là, les avions qui nous survolent. Et puis, on entend les claquements des bombardements. Ah ben, ils avaient bombardé Pralin, Prague et Chaouce. Alors là, ça vous encourage à partir hein, quand on voit ça. La grand-mère dit surtout, faut partir, il faut pas rester avec les Boches. Ils avaient une peur terrible de 14. Les Allemands, ils se conduisaient comme des sauvages. Alors, ils ne voulaient pas entendre parler de rester avec les Allemands.
Qu'est-ce qu'elle vous racontait?
Comment?
Qu'est-ce qu'elle vous racontait?
Eh bien, ils commettaient des atrocités avec les habitants. J'ai ma femme qui était des Ardennes, et ben elle dit, c'est incroyable comme ils avaient peur des Allemands. Vu ce qui s'était passé en 1870, puis ça s'est renouvelé en 14, puis ça s'est renouvelé en 40. L'esprit de vengeance est toujours là.
Et il y avait du monde sur les routes?
Oh ben, c'était un embouteillage. Ma soeur est née, elle avait une C4. Une C4, c'est une voiture, une Citroën. Elle conduisait. Mon père, moi et puis un autre frère, on était en vélo. Enfin, il fallait conduire les chevaux. Mais puis on a été jusqu'à Semoutier, c'est auprès des. Je sais pas, on avait fait 100 km. C'était un réembouteillage que les soldats français, ils se sauvaient aussi. Ils faisaient comme nous. On passait dans un bois, on voit des gradés qui se planquaient.
Et les avions, c'était quoi?
Eh bien, c'était soit des Italiens ou des Allemands. Mais on n'a jamais su le fin fond de l'histoire.
Mais qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Vous vous souvenez de ce que les gens disaient, si c'était des Italiens ou des Allemands?
Ben, peu importe, ce qui comptait, c'est qu'il y avait des morts et des blessés.
Sur la route?
Oh ben oui. Alors quand on entendait des avions, on se planquait dans les bois. Là. Puis les soldats français disaient, faut pas vous cacher dans les bois, c'est le panneau de ils tirent sur les lisières de bois parce qu'ils savent qu'on se cache. Ma femme qui était des Ardennes. Ils avaient été jusqu'à Nevers. Parce qu'ils étaient partis quand en arrivant dans l'Aube, puisqu'ils étaient partis, à 15 jours près, ils avaient intérêt à continuer. Nous, parce que nous, on hésitait à partir. On dit, si les Français ils arrêtent les Allemands, ça va aller. Mais,
Et vous l'avez rencontré plus tard?
de,
Vous l'avez rencontrée plus tard, votre épouse?
Ben oui. Et alors, eux, ils avaient des juments, des chevaux ardennais, c'était des choses. Alors, elle me disait, ma femme, quand elle a rentré dans le village, les chevaux, ils ont reconnu l'écurie, et parce que c'était des chevaux allemands, un coup dedans, à l'autre, à l'autre, elle a voulu se remettre à la place qui était la sienne. Elle les a fait dégager. Incroyable, la mémoire qu'ils avaient.
Vous l'avez rencontrée quand, votre femme?
Eh ben, en 60. Parce que mon frère s'est marié avec une Ardennaise et il exploitait une ferme, enfin, c'était de l'élevage. Mais les choux, c'est incroyable. On exploitait une ferme à 10 km de leur écurie. Mais ils n'aimaient pas coucher dans une espèce d'abri, quoi, de grange. Alors, on dételait à midi, on élevait le mort, oh, puis il est parti. Mais on ne s'est pas inquiété. Il a trouvé son chemin, il y avait un bois à traverser. Il l'a traversé et il a rentré à l'arrêt de son écurie. Ils avaient le sens de l'orientation incroyable. Parce qu'ils disaient, ça va bien. Ils buvaient de l'eau de la citerne qui a toujours un goût. Et puis, comme nous, on n'aime pas être dérangé de ses habitudes.
Et vos parents, ils avaient un peu de vigne ou pas?
Ben, un peu pour la consommation.
Un peu?
Un peu pour la consommation.
Deux.
Ben, pour la famille.
Et combien de parcelles?
Ben, on en plantait juste pour nous. Ça me plaisait de faire la vigne. Mais quand il y a eu l'appellation Champagne, en 1927, les habitants de Darel n'ont pas voulu signer. Parce qu'ils disaient, oh ben, on va être imposé, on va payer des impôts en plus. Finalement, la commune, ils l'ont demandé maintenant l'appellation, mais c'est pas dit qu'ils vont l'obtenir.
Et vos parents vous en ont parlé?
Oh ben oui. Mon père avait même manifesté à Troyes en 27 que les soldats ils avaient ordre de tirer et qu'ils ont refusé. Parce qu'ils savaient qu'ils défendaient une cause injuste.
Juste ou injuste?
Injuste. Ils ont envoyé la troupe contre des civils qui se révoltaient. Alors, parmi les soldats, il y en a qui c'était beaucoup de paysans. Ils ont dit, on va les laisser agir, mais on ne veut pas intervenir.
Et qu'est-ce qu'il vous a raconté d'autre, alors, votre père?
Ben, d'autres.
D'autres choses? Ce qu'il a connu 1911 et 1927?
Oui.
Et vous en a parlé?
Oh ben, vaguement. C'était du passé.
Et vous auriez aimé être vigneron?
Oui, ça me plaît de m'occuper de la vigne. Ben c'est comme ici, on limite de l'appellation Champagne. Enfin, Balneau. Bagneux, c'est en appellation. Beauvoir, Aviré. Enfin, c'est arrêté. Alors, le maire, il pensait toujours avoir. Parce qu'il fallait fournir des. Alors, il y a eu 100 hectares de vignes en 1900. Le cabanon, les vignerons étaient rares. Mais le maire, il a essayé. Il a essayé de. Parce que je faisais des recherches sur l'état civil. Il me disait toujours, s'il y a des vignerons, faut le noter. Pour avoir plus d'appui pour.
Et quand est-ce que vous avez fait ces recherches pour savoir?
J'avais 65 ans quand j'ai été à la retraite. J'ai commencé à écrire.
Et vous dites que votre père, il est descendu à 3 en 27,
Oui.
mais qu'il a refusé les vignes.
Eh ben oui, enfin, lui, il était pour refuser, il était pas pour refuser, il était pour que ce soit une appellation, mais il n'a pas eu la majorité, alors le conseil, c'est lui qui a décidé. Parce que mon père a été maire. Oh. De 26 à la guerre, il était maire, il a fait des bails.
Et vous avez dit qu'il avait regretté cette décision, pas?
Ah ben oui.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Ah ben ils avaient peur de payer trop d'impôts, alors ils ont refusé. Alors, n'ayant pas la majorité. Ils ont été obligés d'accepter. Ça a fait du bruit, la révolte des deux bois. Parce que si tout le vignoble de l'Aube était. Parce que les Barnais ils ne voulaient pas de l'Aube pour. Il a peur que ça leur fasse concurrence.
Mais ça, vous l'avez, on vous l'a raconté quand vous étiez enfant, ça, ou pas?
Oh ben oui.
Qu'est-ce qu'on vous disait sur ça?
Oh ben nous. Le champagne n'avait pas l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. On en boit facilement que dans ce temps-là. J'ai jamais vu mon père ouvrir une bouteille de champagne. C'était du bon vin, mais c'était rare d'ouvrir une bouteille de champagne.
Et il y a eu des différences ensuite entre les villages, ceux qui avaient du champagne, ceux qui n'en avaient pas, ceux qui avaient des vignes, ceux qui n'en avaient pas, ou pas?
Ah ben, une différence, il n'y avait pas de différence. On est obligé d'accepter la décision.
Mais dans l'évolution, les villages où il y avait de la vigne, ils ont connu la prospérité.
Oui, mais comment on ne connaissait pas la prospérité qu'ils connaissent actuellement, c'était la misère. Il y a 3 années de suite. Alors, là, comme là, pour les eaux, ce serait de peur. Eh ben, il y en a qui ont été obligés de quitter. Ils sont mis facteurs ou. C'était Même mon frère, il a eu de la chance. Parce que j'ai un frère qui explote à Arles. Et alors, là qu'il y avait une vente à virer, puis voilà, un ancien cultivateur qui voulait vendre. Il ne voulait pas que ce soit les gens de virer qui en profitent. Alors, mon frère a sauté sur l'occasion, et si bien qu'il a acheté. Mais la délimitation du champagne n'était encore pas bien définie. Alors il a acheté des terres pour des friches. Des friches, ça ne vaut rien. Alors 2 ans après, il s'est trouvé un appel à ce champagne. C'était aubaine. Maintenant, il y a 3 hectares de vignes. Ben, parce qu'il faut 100 hectares de terre pour faire l'équivalent d'un hectare de vignes. Le rapport.
À l'époque, c'était déjà ça.
Ben moins. Mais le raisin de champagne, il est bien valorisé. Qu'il était moins il y a 10 ans. Oui, alors il y a trouvé à vendre la maison et les bâtiments à un vigneron à Marnay, moins entendant. Alors, c'est lui qui s'occupe de tout. Il vend le raisin à un négociant. Il lui fournit le personnel parce qu'il allait tous les matins à 3 ramasser des Vietnamiens. Ici, sans argile, il travaille bien, que les Nord-Africains. Ils ont un poil dans la main.
Et vous avez fait votre service quand?
Moi, je n'ai pas fait de service. À la libération, il y a eu 2 classes, 44-45, ils n'ont pas été appelés. Alors, j'ai passé à côté. J'aurais bien voulu y aller.
Voilà, on a fait un tour.
Oui.
Là, je vous remercie bien d'avoir donné ce témoignage.